Chers amis, bonjour. Vous qui avez déjà suivi la moitié, 6 leçons sur 12, de ce cours intitulé « La parole en parabole ». Alors, nous sommes le lundi 16, et c'est notre 7e leçon. Alors, comme nous avons eu une interruption relative de 15 jours, je vous propose de prendre quand même d'abord un certain temps pour nous remettre un peu l'essentiel de notre parcours en mémoire. La première leçon, c'était une introduction générale et notamment, on avait, à la faveur d'un tableau d'ensemble, ici, pris un peu la mesure du nombre de paraboles, d'abord dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, en constatant que 6 paraboles sont vraiment communes aux 3, Matthieu, Marc et Luc, c'est ce qu'on appelle ce qui relève de la triple tradition, que 10 sont communes à Matthieu et Luc, la double tradition, qui comporte surtout des paroles, puisque ce qu'ils ont en commun, là, ils le doivent sans doute à une source de paroles qu'on n'a plus, mais qui a été comme un réservoir d'inspiration pour des passages ainsi de discours, de paraboles que Matthieu et Luc ont en commun. Et puis, il y a 8 paraboles qui sont propres à Matthieu, Luc, qui dans son évangile a une bonne part de son évangile qui lui est typique et propre, n'a pas moins de 17 paraboles qui lui sont propres. Et quand on les parcourt, ben, on repère des thèmes qui lui sont chers. Et enfin, Marc n'a que 2 petites paraboles qui lui sont propres, à savoir la parabole du portier qui veille et de la semence qui pousse toute seule. Puis, dans cette leçon d'introduction, nous avons aussi parcouru ensemble, en commentant un peu, un bel article à la rubrique parabole du vocabulaire de théologie biblique, qu'on appelle familièrement le VTB de Xavier Léon Dufour. Dans la deuxième leçon, nous avons abordé la parabole, je dirais, dont dépend la compréhension de toutes les autres paraboles, comme Marc le rappelle. En son chapitre 4, si vous ne comprenez pas cette parabole-ci, comment comprendrez-vous toutes les autres, dit Jésus là-bas. Cette parabole fondamentale et préliminaire, c'est celle du semeur, qui est d'ailleurs commune aux 3. On la trouve chez Matthieu, Marc et Luc. Et nous l'avons prise dans sa version essentiellement de Matthieu 13, qui, dans les discours qui ponctuent l'évangile de Matthieu, est le discours dit en parabole. Non pas qu'il n'y en ait pas d'autres ailleurs, mais là on a un regroupement délibéré de 7 paraboles. Et cette première parabole est fondamentale parce qu'elle concerne justement la dispensation de la parole, le semeur qui sème, et l'accueil de cette parole. Un accueil plus ou moins généreux qui fait que la parole peut plus ou moins porter de fruits. Alors le point d'attention que j'avais souligné, c'est qu'il y a 2 temps. Il y a l'histoire racontée et puis l'interprétation de l'histoire, l'explication que Jésus en donne à ses disciples. Mais entre les deux, entre l'énoncé de l'histoire et son explication, Jésus répond à la question des disciples « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Donc, entre l'histoire et son explication, une réflexion sur le pourquoi même du genre parabolique, si l'on peut dire. Et Matthieu, là, dans ses versets, nous fait entendre Jésus déployant dans sa réponse un passage d'Isaïe, Isaïe 6, au verset 9 à 6, une longue citation qui nous fait comprendre, c'est le cas de le dire, avec l'insistance sur le verbe « comprendre », que justement, pour comprendre, eh bien, il faut avoir le regard, l'œil ouvert, l'oreille, l'écoute, et surtout le cœur bien disposé. C'est fondamental, puisque là est développée l'attitude de base qui va permettre de comprendre, d'entrer dans le langage parabolique. La troisième leçon, nous avons abordé alors les 6 autres paraboles du chapitre 13, à savoir celle de l'ivraie et du bon grain, la graine de moutarde, qui entre sa petitesse et le bel arbuste qui en découle, manifeste une belle disproportion de croissance, le levain également, cette image de croissance, le trésor trouvé dans le champ, la perle précieuse qui dit le prix du royaume et ce qu'on est prêt à abandonner pour acquérir ainsi cette richesse du royaume. Et enfin, le filet que l'on trie sur le rivage, dit Jésus, alors que la foule même qui l'entend est sur le rivage. Le filet que l'on trie au sens où les poissons sont distingués entre les poissons valables et les autres. Et livré, comme le semeur, présente entre l'énoncé de l'histoire et son explication, et là nous sommes à la charnière entre ce que Jésus dit aux foules et ce qu'il dit en particulier en venant dans la maison aux disciples, on a là deux versets psalmiques, cette fois-ci non plus Isaïe, mais un extrait d'un psaume, qui sont décisifs sur la portée du langage parabolique, de nouveau, dans sa force révélatrice, puisque ce psaume dit « J'ouvrirai la bouche pour proférer des choses cachées depuis la fondation du monde ». Donc la nouveauté du royaume se révèle, vient à la lumière, à la faveur du langage parabolique. Alors la finale de cette parabole de livrée, après cette réflexion sur le pourquoi du langage parabolique, la finale de l'explication de la parabole insiste sur l'idée de tri, de jugement final, de même d'ailleurs que la finale de l'image du filet que j'évoquais à cet instant. Et là nous avons ressaisi quelques lignes de l'enseignement, je dirais, profond des paraboles en Matthieu 13. Déjà, ce seul chapitre permet de pointer un certain nombre d'accents. D'abord, les paraboles sont révélatrices, je révélerai des choses cachées, sont révélatrices pour qui a commencé à s'y ouvrir. Dès qu'on ouvre son cœur, on commence à comprendre, qu'on reste dans cette attitude, on comprendra de plus en plus ce que le Seigneur veut révéler. Elles appellent dans le présent un choix discerné. On voit qu'il y a des choix à poser. Être un bon grain, ou bien se laisser contaminer par l'ivraie, ou bien se laisser décourager par les tentations du monde, etc. Tout ce qui est mis en scène dans la parabole du semeur, qui invite à faire un choix d'être cette bonne terre réceptive où la parole va pouvoir germer. Un choix discerné et un choix qui s'éclaire sur l'annonce du jugement final. Quand le jugement final est évoqué, c'est toujours pour nous faire saisir l'enjeu de ce que, dès maintenant, nous devons opérer comme choix. Elle porte donc une exigence d'engagement sur la voie que trace Jésus. Les paraboles ne sont pas un beau langage imagé pour satisfaire notre sens esthétique, elles sont là pour nous faire réfléchir et aussi convoquer notre liberté, notre engagement à mettre en œuvre ce que Jésus nous y dit. Et cet engagement ne va pas sans un combat spirituel. On le sent, c'est quand même le mauvais qui est à l'œuvre, comme le dit la parabole du semeur, c'est le diable qui vient ravir ce qui a été semé dans le cœur, et donc il ne faut pas s'étonner de ce combat spirituel. En même temps, l'exigence s'assortit positivement d'une perspective de croissance irrépressible du royaume. C'est ce que disent les images du grain qui pousse, du petit grain de moutarde, du levain dans la pâte. Rien ne pourra empêcher la graine de la parole de Jésus de porter son fruit si nous nous y livrons, ouvrons. Voilà quelques lignes qu'on avait déjà pu dégager de ce qu'implique pour nous ce langage parabolique. Dans une quatrième leçon, nous avions d'abord vu la parabole propre à Marc 4 de la moisson qui mûrit toute seule. Vous vous souvenez que celui qui a jeté la semence dorme ou veille, et bien le grain pousse, en la situant un peu dans son contexte. Et puis, trois paraboles centrées sur le choix à faire, que j'évoquais, et la conversion requise. Il s'agit de bâtir sa maison sur le roc ou bien sur le sable, en faisant ou non les paroles du Christ. C'est à la fin du chapitre 7, le sermon sur la montagne, et les paroles du Christ nous rappellent Matthieu, Jésus à Matthieu, exprime la volonté de son Père à notre égard. Donc faire ou non la volonté du Père en mettant en pratique ce que le Christ dit pour bâtir sa maison sur le roc. Sur le roc ou sur les sables. C'est là la première bifurcation, si je puis dire. Puis une autre parabole qui nous exprime le choix à faire, qu'on trouve en Matthieu 11 et en Luc 7, c'est celle des enfants sur les places. Est-ce qu'on va se laisser toucher par le chant de deuil qui représente la prédication un peu austère de Jean-Baptiste? Est-ce qu'on va se laisser toucher par l'invitation à la danse qui représente la manière dont Jésus apporte la bonne nouvelle? Est-ce qu'on va ainsi se laisser convertir, oui ou non? Dans le même sens, être ou non capable de faire oui après avoir dit non. C'est les publicains, les pécheurs qui au départ se comportent mal, mais qui, à un moment donné, se repentant, se convertissant, font finalement la volonté de Dieu en revenant à lui. Donc, la maison sur le roc ou sur le sable, consentir ou non à l'invitation des enfants sur les places, être le fils qui fait finalement oui plutôt que non, ça s'exprimait dans la parabole des deux fils qui est propre à Matthieu. Et les avertissements à ceux qui refusent la conversion vont se poursuivre à travers les paraboles chez Matthieu, des vignerons homicides et puis des invités au festin des noces. Et on veut souligner l'importance de l'expression « plus tard » qui dit qu'il y a un « plus tard » qui est encore une chance à saisir si on n'a pas commencé à s'ouvrir à Jésus, et bien pour se convertir. Mais à un moment donné, comme on va le voir avec les vierges insensées, et bien la porte sera fermée, il sera trop tard. Dans la cinquième leçon, là on avait encore plus souligné le rapport qui peut exister entre des paraboles et le contexte dans lequel elles sont énoncées. En effet, en Luc 15, on a trois paraboles qui sont liées, parce qu'elles articulent toutes trois le thème de la retrouvaille du pécheur qui revient à Dieu et de la joie qui s'ensuit. La brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu. Et en chapeau, en tête, les deux premiers versets du chapitre 15 nous disaient que Jésus énonce ces paraboles à l'intention de ceux qui ne savent pas se réjouir, qui se scandalisent de la venue des pécheurs à lui. Et donc la pointe commune aux trois, la brebis, la drachme, le fils perdu et retrouvé, l'invitation commune, c'est de partager la joie pour le pécheur retrouvé. Une invitation faite aux amis, de la part du berger qui a retrouvé sa brebis, aux amis, de la part de la femme qui a retrouvé sa drachme, au fils aîné, de la part du père, tout heureux d'accueillir le prodigue. Le fils aîné qui est justement un peu figure des pharisiens et scribes qui murmurent contre l'accueil que Jésus réserve aux pécheurs. Et à ce propos, à la fin de cette leçon 5, j'avais fait une petite allusion à cette problématique qu'on peut dire du tiers inclus, c'est-à-dire que lorsque Jésus se trouve devant un personnage, à ce duo s'adjoint souvent un troisième personnage, un tiers, qui est témoin de ce qui se passe et qui est invité à consentir à ce que Jésus fait en faveur de celui dont il fait bénéficier de sa miséricorde ou pour lequel il opère un miracle. Et ici, cela se met en parabole puisque le tiers, c'est le fils aîné qui est invité à rentrer dans la maison pour partager la joie de ce qui se passe entre le père et le cadet. Et ce fils aîné, pour le moment, à ce moment-là, n'arrive pas encore à se laisser inclure dans cette joie. C'est un exemple, mais on trouve souvent ce genre de situation en Saint-Luc. La sixième leçon offrait deux paraboles de débiteurs. D'abord, en réponse à la question de Pierre, c'était dans le chapitre 18 de Matthieu, chapitre plus ecclésial, qui insiste sur l'attention petit aux pauvres, et qui insiste aussi sur le pardon, à savoir s'accorder pour que justement la communauté chrétienne puisse vivre de l'esprit du royaume. Et Pierre posait la question, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Donc c'est la parabole qui va intervenir en réponse, c'est une parabole sur le pardon à accorder. Et c'était l'histoire, en Matthieu 18, du débiteur impitoyable. Alors elle intervient à l'intérieur aussi de l'épisode de la pécheresse aimante et pardonnée. La parabole, là, des deux débiteurs. Concernant, cette fois-ci, l'ouverture au pardon à recevoir. Chez Matthieu, c'est le pardon à accorder. Celui qui s'est vu remettre une grande dette est incapable à son tour de remettre une dette minime à celui qui lui doit. Et Jésus dit, mais apprenez à pardonner comme votre Père vous pardonne, sinon il ne vous sera pas pardonné. Tandis qu'en Luc 7, la parabole des deux débiteurs montrait à Simon le pharisien qui se scandalisait du pardon que Jésus accorde à la femme pécheresse, eh bien, cette parabole invite Simon à considérer que lui aussi, il est débiteur, peut-être moins que la femme, et donc il a aussi un pardon à recevoir. Il n'était pas en dette de 500 deniers, comme le dit l'image parabolique, mais de 50, mais il était quand même en dette de 50, et tous les deux étaient insolvables, nous dit le texte. Donc, Simon le pharisien doit apprendre, comme la pécheresse qu'il est en train de critiquer, à s'ouvrir dans l'amour au pardon que le Seigneur veut lui donner. Il doit apprendre à recevoir le pardon. Dans la foulée, j'avais proposé, pour terminer cette leçon 6, une brève réflexion sur le rapport fréquent et très important entre le récit parabolique et le contexte du récit évangélique dans lequel il s'insère pour l'éclairer. Il y a ce qui se passe sur la scène de l'évangile. Jésus rencontre telle personne, il fait ceci, etc. Et puis ce qui se passe sur la scène de ce que met en scène la parabole, l'histoire parabolique. Et il y a un rapport entre les deux. Comme je le disais à l'instant, l'attitude du fils aîné, dans la parabole du fils perdu et retrouvé, l'attitude du fils aîné sur la scène du récit parabolique est en train de mimer l'attitude des pharisiens qui en veulent à Jésus d'accueillir les pécheurs sur la scène du récit évangélique. Donc il y a un rapport d'éclairage très important entre les deux. Les paraboles n'arrivent pas comme isolées dans un cocon, mais elles visent à faire comprendre ce qui se joue au moment où Jésus en est dans son parcours. Voilà pour nous rappeler, on a pris un peu le temps, mais notre parcours jusqu'ici. Alors dans cette septième leçon, vous l'avez vu si vous avez reçu les feuilles, numérotées 26 à 29, je vous ai donné le texte alors de parabole qui dispose, et je vais d'abord les situer dans leur contexte, qui dispose chez Matthieu à une attitude d'attente active et vigilante du jour du Seigneur. En haut de la page 26, surmontée au début du chapitre 24 de Matthieu, mais je remonte encore un peu plus loin, quelques instants, pour que vous voyez le climat dans lequel s'insèrent ces trois paraboles du serviteur fidèle et avisé en regard du mauvais serviteur. Après l'image de la venue impromptue du voleur, pour signifier l'imprévu du jour du Fils de l'homme, la venue de Jésus. Puis la parabole des dix vierges, sages ou insensées. Et enfin, la parabole dite des talents, qui s'enchaînent et qui participent d'un point d'attention, d'une thématique commune. Alors, leur contexte. Jésus est en train de s'approcher de Jérusalem. Il entre dans Jérusalem au chapitre 21 de Matthieu. Qui est celui-ci? On l'acclame, tandis que grands prêtres et scribes sont rebelles à l'idée que jusque dans le temple on puisse crier « Hosanna au fils de David ». Puis Jésus va entrer dans le temple, donc il s'approche de la ville, il entre dans la ville, maintenant il entre dans le temple, et on commence à l'interpeller, toujours au chapitre 21, les grands prêtres et les anciens du peuple, en lui demandant par quelle autorité il agit, par quelle autorité il est intervenu dans le temple et il enseigne dans le temple. Et de nouveau, dans la réponse de Jésus, on retrouve cette problématique liée à Jean-Baptiste. Il leur demande par quelle autorité, d'où venait l'autorité de Jean-Baptiste. Et ils n'osent pas s'engager, et donc Jésus ne leur répond pas, puisque s'ils ne s'engagent pas pour reconnaître le précurseur, ça veut dire qu'ils sont fermés à reconnaître celui qu'il annonce, Jésus. Je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais ceci. Puis la parabole des deux fils, que je rappelais tout à l'heure, que nous avons déjà vu, celui qui fait oui après avoir dit d'abord non et puis l'inverse, et qui de nouveau est lié à cet appel à imiter la conversion qu'ont consenti les publicains et les prostituées à l'appel de Jean-Baptiste. Puis la parabole des vignerons homicides, qui signifie à ceux qui résistent à quel point meurtriers ils vont aboutir contre le fils même du maître de la vigne. Jésus, avec courage, figure ce qu'il attend. Puis la parabole du roi qui fait les noces de son fils, avec une finale qui est propre à Matthieu et s'emporte contre celui qui est entré sans le vêtement de noces, c'est-à-dire en ne consentant pas à entrer dans l'esprit des noces et du royaume. Et là, à la fin, devant ses serviteurs qui restent bouche bée, qui n'a pas consenti à mettre le vêtement de noces, Jésus dit, liez-lui pieds et mains, jetez-le dehors, dans les ténèbres extérieures, là sera le pleur et le grincement de dents, une expression qu'on va retrouver et qui revient pas moins de 5 fois en Matthieu, qui nous est chère, héritée de l'arrière-fond biblique et qui signifie, la réprobation qui guette ceux qui ne se convertissent pas. Puis, au chapitre 22, Jésus a été pris à partie dans des controverses, c'est pour dire le climat quand même d'hostilité et de tension qui grandit, par les pharisiens et les hérodiens qui veulent le coincer sur la question de l'impôt à César, puis par les sadducéens sur la question de la foi en la résurrection, puis par les pharisiens sur la question du plus grand commandement, Jésus répond par le double commandement de l'amour, et finalement c'est Jésus qui, après avoir été mis à l'épreuve du questionnement, interroge lui-même. Que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il le Fils? Et puis, ils disent de David, et Jésus fait réfléchir sur sa seigneurie à la faveur du psaume de David. Le Seigneur mon Dieu, dit David, a dit à mon Seigneur, le Messie attendu, siège à ma droite. Et donc, dans ce psaume, David parle du Messie attendu, son successeur, en termes de Seigneur. Et Jésus les fait répondre. Réfléchir là-dessus, et donc ça veut dire qu'il est plus que simplement fils de David à hauteur humaine, il est seigneur de David. Et Jésus, entre les lignes, leur signifie sa propre identité de seigneur. Et là-dessus, plus personne, nous dit Matthieu, n'ose l'interroger. Nous en arrivons au chapitre 23, le contexte, c'est la critique vive de Jésus contre les scribes et les pharisiens hypocrites. Et il en donne des exemples. Et le chapitre 23 va se terminer sur les pleurs, les lamentations de Jésus sur Jérusalem, ville qui tue les prophètes et qui ne veut pas laisser le Seigneur rassembler ses enfants. Et ça se termine quand même par une note d'espérance, au sens où Jésus dit « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni celui qui vient au nom du Seigneur », c'est-à-dire cette acclamation d'accueil de Jésus à Jérusalem, que critiquaient les autorités, eh bien Jésus dit qu'elle se réalisera, mais là il vise son retour final où l'on pourra dire désormais « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors nos paraboles, j'en j'y viens, interviennent dans la foulée de ce que Jésus a annoncé en termes de destruction du temple. Et c'est le petit extrait que vous avez d'abord sur votre page 26, le verset de Matthieu 24, verset 3. Comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent auprès de lui à l'écart en lui disant « Dis-nous quand ceci sera ?» Jésus vient de parler de la destruction du temple, entre autres, « Et quel sera le signe de ta parousie et de la fin des temps, une consommation du siècle ?» Comme il est. Donc, le questionnement sur quand viendra la fin du temps, quels en seront les signes. Jésus va déployer un scénario apocalyptique de tribulation, d'épreuves, en disant il y a des épreuves préliminaires, ce ne sera pas encore la fin. Jésus va insister sur le danger réel d'égarement. Si on vous dit le Christ est ici, il est là, n'y allez pas, ne croyez pas trop vite. Et puis, Jésus fait comprendre que finalement, le jour et l'heure, c'est chapitre 24, le verset 36, seul le Père les connaît. Au sujet de ce jour-là et de l'heure, personne ne sait, ni même les anges des cieux, ni le Fils, sinon le Père. Et Jésus va faire comprendre ce caractère imprévisible, imprévu, mais aussi, il va donner des indications précieuses sur la manière de s'y préparer pour ne pas en être écrasé, mais au contraire entrer dans le salut qui sera lié à la venue dernière du Fils de l'homme. Et Jésus, pour signifier le caractère imprévu de sa venue, parle d'abord des jours de Noé, il évoque les activités quotidiennes, et c'est à l'intérieur de ce quotidien, de cette histoire quotidienne des hommes, que le Seigneur reviendra. Ainsi sera-t-il à la parousie du Fils de l'homme. Deux seront dans le champ, un sera pris, l'autre laissé, deux broyant à la meule, une est prise, l'autre laissée. Donc, il y a une venue, il y a un jugement qui s'opère, mais dans le quotidien de nos vies, alors que même on est au champ, on est en train de broyer à la meule. Et Jésus alors ajoute au verset 42, dans la foulée, « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Or, vous savez cela. Si le maître de maison savait à quelle heure, à quelle veille exactement, le voleur vient, il aurait veillé et n'aurait pas permis que fût percée sa maison. En raison de ceci, vous aussi, tenez-vous prêts, parce que à l'heure où vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme vient. » Vient, c'est au présent. Ça veut dire, c'est sûr, il viendra, mais un jour, ce sera au présent. Et peut-être que déjà dans nos vies, aujourd'hui, il vient, et que nous devons être attentifs à ses appels dès aujourd'hui, ne pas attendre le dernier moment pour le convertir. L'heure où vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme vient. Juste avant cette leçon, on évoquait le cas dramatique d'une personne qui, hier, tout à fait accidentellement, de manière imprévisible, voilà, est décédée. Et vraiment, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Donc, dit Jésus, tenez-vous prêts. Vous remarquerez que ce petit passage, des versets 42 à 44, que je viens de relire, est encadré par la mention du jour, au verset 42 au début, et puis la mention de l'heure, au verset 44, à la fin. Le jour et l'heure, c'est le binôme qui articule, je dirais, la manière d'exprimer le moment où le Seigneur reviendra. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient, c'est ainsi qu'il est nommé au début. Et puis à la fin, à l'heure où vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme vient. Le Fils de l'homme, cette expression en troisième personne, c'est toujours Jésus qui l'utilise pour parler de lui-même. Mais précisément, elle est tributaire, en partie, pas seulement, mais d'un passage du prophète Daniel, où le prophète, dans sa vision, dit, je vois comme un fils d'homme venant sur les nuées, et lui est donné autorité, pouvoir sur les peuples, la royauté, donc l'intronisation finale d'un personnage céleste et solennel. Et Jésus a ressaisi cette expression, le fils de l'homme, mais de manière beaucoup plus précise, puisque Daniel disait « je vis comme un fils d'homme » et Jésus dit « le fils de l'homme » avec deux articles définis, et il parle de lui-même. Alors il parle de lui-même dans l'optique de Daniel pour évoquer sa venue finale, c'est ce qu'il fait ici, mais c'est aussi l'expression qu'il utilise dans les annonces de la Passion et de la Résurrection, pour signifier qu'à côté de cet aspect glorieux, il y a d'abord le passage par la souffrance pour entrer dans sa gloire. Toujours est-il ici que c'est l'aspect devenu final et impressionnante que désigne le choix par Jésus de l'expression « le Fils de l'homme qui vient ». Puis, nous passons à après cette image, c'est pas une longue parabole déployée, mais c'est une image suggestive. Déjà, cette image du voleur se trouve dans l'Ancien Testament pour signifier le caractère imprévu de quelque chose. Par exemple, chez Joël, il évoque des plaies, des invasions de sauterelles, et il dit « elles passeront partout, par les fissures des murailles et même par la fenêtre, comme un voleur. » Après cette image, qui ne doit pas s'attacher au contenu négatif du mot voleur, mais au caractère imprévu par définition de la venue du voleur. C'est cela qui est visé. Parce que le Fils de l'homme ne vient pas au dernier jour comme un voleur, disons, dans son intention malfaisante. Il vient comme un voleur par son caractère imprévisible. Puis, après donc, cette image, ce germe de parabole, un tableau qui va distinguer, et Matthieu va le faire dans les paraboles suivantes, deux types d'attitudes. Le serviteur mauvais en regard du serviteur au contraire fidèle et avisé. Et puis on aura les vierges insensées en regard des vierges sages et prévoyantes. Et puis on aura, dans la parabole des talents, les serviteurs qui visent à faire fructifier les biens du maître en regard de celui qui a peur et qui l'enfouit, ne portant pas de fruits. Commençons donc par les deux types de serviteurs. Qui, de fait, est le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa maisonnée pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur-là que, venant, son Seigneur trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis, sur tout ce qui lui appartient, il l'établira. Or, on prend un autre cas, si ce mauvais serviteur-là dit dans son cœur « Mon Seigneur prend du temps » et commence à battre ses co-serviteurs, or il mange, il boit avec des ivrognes, surviendra le Seigneur de ce serviteur-là, car au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et le mettra à part avec les hypocrites. Là sera le pleur et le grincement de dents. » Donc un diptyque qui compare deux attitudes bien différentes. Je reviens sur certains termes. Le serviteur fidèle et avisé. Fidèle, pistos, c'est un adjectif de la racine de pistis, la foi, qui a donné fidèle, fiable, confiant, croyant. Donc il y a beaucoup de nuances, mais ici c'est au sens de la fidélité, serviteur fidèle, et ça va être dit à ceux qui font fructifier leur talent. Très bon, serviteur fidèle. Et avisé. Avisé, déjà, c'est le même adjectif qui va être appliqué aux vierges sensées, avisées. Fidèle et avisé, que le Seigneur a vraiment établi sur sa maison. Une clôture ou non. Heureux ce serviteur-là. C'est beau de voir que cette perspective du jour final est ici mise en lumière de béatitude à proprement parler. Donc, si nous disposons à vraiment servir, c'est un jour que nous devrions attendre avec soi. Heureux ce serviteur-là, que venant son Seigneur trouvera faisant ainsi. Et il établira sur tout ce qui lui appartient. C'est vraiment un partage considérable. En Luc au chapitre 12, les versets 37 à 40, on a quelque chose de cette venue du Seigneur qui trouve un serviteur qui s'est bien acquitté de sa mission. Et je vous lis ces versets parce qu'on va les retrouver dans une illustration que je vous montrerai tantôt de cette parabole. Luc 12, 37, 40 dit « Heureux ces serviteurs-là, au pluriel, que le Seigneur étant venu, trouvera vigilant. Amen, je vous dis qu'il se scindra, passera à table et étant passé, les servira. Et si il revient à la deuxième ou la troisième veille de la nuit et qu'il les trouve ainsi, heureux sont ceux-là. » C'est Luc aussi à la béatitude. « Heureux sont ceux-là. » Comprenez bien ceci, si le maître de maison savait à quelle heure vient le voleur, donc c'est Luc, l'image du voleur vient après, et Matthieu le précède, si le maître de maison savait à quelle heure vient le voleur, il n'aurait pas souffert que sa maison soit percée. Vous aussi, tenez-vous prêts, parce que le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Voilà un passage de Luc au chapitre 12, je dirais qui enrichit aussi cette manière de pouvoir se représenter la venue du Seigneur. Il établira, nous dit Matthieu, je reviens à Matthieu, au verset 47, sur toute chose. Il l'a établi sur sa maisonnée au départ, et voilà maintenant qu'il lui appartient. Il l'établit carrément sur tout ce qui lui appartient. Et ce verbe reviendra pour l'accueil de ceux qui ont fait fructifier leur talent. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup, je t'établirai. Ça va être le même verbe qui va être. Le mauvais serviteur, il se dit, mon Seigneur prend mon temps, prend son temps, prend du temps. Et de fait, c'est ce qui va arriver dans la parabole suivante, des vierges qui doivent être vigilantes, comme l'époux prenait du temps. La venue du Seigneur, à travers ces paraboles, s'exprime comme des temps pas nécessairement immédiates. Cela va prendre du temps. Et pour nous, c'est le temps de l'histoire, le temps de l'Église chrétienne. Monseigneur prend du temps. Et là-dessus, il commence à battre les autres, etc. Et le Seigneur va arriver au jour, à l'heure qu'il ne sait pas. Il l'écartera, le détachera. C'est un mot assez fort, le coupera en deux. Parfois, on a compris l'écartellera. Mais dans la ligne de l'usage du verbe à Qumran notamment, on sent qu'il y a une mise à part, une forme d'excommunication, de mise en quarantaine, pour s'exprimer dans des termes qui nous sont familiers aujourd'hui. Il le mettra à part avec les hypocrites. Avec les hypocrites. Or ça, c'est quand même l'adjectif qui a été répété et scandé à propos des reproches aux pharisiens dans le chapitre précédent, chapitre 23. Il le mettra à part avec les hypocrites. Là sera le pleur et le grincement de dents. Une expression, je vous disais, qui revient plusieurs fois chez Matthieu. Alors, je les ai repérées, c'est bon de mesurer dans quel contexte varié elle peut intervenir. D'abord en Matthieu 8, 12, là où un centurion sollicite Jésus pour la guérison de son fils, il est exaucé, Jésus s'émerveille, chez personne je n'ai trouvé autant de foi en Israël. Or, je vous dis que beaucoup surviendront du levant et du couchant, de tous les horizons, ici en l'occurrence c'est un centurion romain, beaucoup viendront, surviendront du levant et du couchant et se coucheront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est là le tronc du royaume. Or, les fils du royaume qui devraient s'ouvrir, mais s'ils n'accueillent pas, seront jetés dehors, dans la ténèbre extérieure. Là sera le pleur et le grincement de dents. Et puis après cette petite incise où intervient cette expression d'avertissement sévère, là sera le pleur et le grincement des dents. Jésus dit au centurion, pars, qu'il arrive pour toi comme tu as eu foi, et son fils fut guéri. Voilà une première occurrence de l'expression le pleur et le grincement des dents familière à Matthieu. Au chapitre 13, le discours en parabole, au verset 42 et puis 50, on retrouve l'expression justement dans le jugement annoncé à propos du tri de l'ivraie par rapport au bon grain. Tous les scandales, les fauteurs d'iniquité seront jetés dans la fournaise de feu, l'ivraie, là sera le pleur et le grincement de dents, tandis que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Donc en 13,42. Et puis, je vous disais, la parabole du filet avec le tri des poissons se termine de même par une perspective de tri et de jugement, et l'expression revient encore. Ainsi, à la consommation du siècle, les anges viendront, sélectionneront les méchants du milieu des justes, jetteront les méchants dans la fournaise de feu, et là sera le pleur et le grincement de dents. Là, nous sommes en Matthieu 13, 48. Puis l'expression intervient en 22, 13, à propos du jugement sévère contre celui qui est entré au festin des noces sans le vêtement. Le roi dira aux servants, liez-le, jetez-le dehors, dans la ténèbre extérieure, là sera le pleur et le grincement de dents. Et ce sont des versets, de nouveau, vous vous souvenez, qui sont propres à Matthieu. Et puis, on vient de le rencontrer ici, et elle reviendra encore au chapitre 25, au verset 30. Enlevez-lui donc son talent, celui qui l'a enfoui, donnez-le à celui qui a 10 talents, celui qui a, lui sera donné, surabondera, et par contre, jetez dehors le serviteur inutile dans la ténèbre extérieure, là sera le pleur et le grincement des dents. Là, nous sommes en Matthieu 25, 30, à la fin de la parabole des talents. Je reviens à la parabole des serviteurs mauvais, donc c'était en 24-51, c'est en voyant l'expression là que j'ai rapidement décliné ces autres occurrences. Puis nous passons à la parabole des vierges sages et des vierges fortes. Alors, donc on entre dans le chapitre 25. Donc être un bon serviteur ou un mauvais, telle est la première manière de décliner le choix. Une deuxième manière, être une vierge sensée, avisée, prévoyante ou pas. Le royaume des cieux sera assimilé à 10 vierges, lesquelles, prenant leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 avisées, car les insensées, prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile d'olive avec elles. Les avisées prirent de l'huile d'olive dans des fioles avec leur lampe. Comme l'époux prenait du temps, elles s'assoupirent toutes et dormaient. Or, au milieu de la nuit, un cri est arrivé. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc, elles sont sorties à la rencontre de l'époux, au début, de manière générale, et puis maintenant, c'est le moment décisif, au moment où il s'approche. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors se réveillèrent ces vierges-là, elles arrangèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, donnez-nous de votre huile d'olive, parce que nos lampes s'éteignent. Les avisés leur répondirent en disant, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez les vendeurs et achetez-en pour vous-même. Or, comme elles s'éloignaient, pour en acheter, vint l'époux. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui vers les noces, et la porte fut fermée. Plus tard, viennent aussi le reste des vierges en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Répondant, il dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous sais pas, je ne vous connais pas, veillez donc, parce que vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Commentaire de cet terme, elles sortent à la rencontre de l'époux. Les insensés, c'est un terme assez fort, en Matthieu 5, Jésus dit, celui qui dit à son frère Raca sera passible de la géhenne, celui qui lui dit insensé, si, se verra réprouvé. donc insensés, et les autres sont avisés. Là, l'adjectif qu'on a rencontré tout à l'heure, le serviteur fidèle et avisé, et qu'on avait déjà rencontré pour l'homme qui met en pratique la parole de Jésus et qui est comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Deux fois la deux. L'adjectif était arrivé là-bas. Donc, des adjectifs forts, les insensés d'un côté, les avisés de l'autre. Et vous prenez du temps, j'en ai dit un mot, voilà que toutes s'assoupissent et dorment. Et puis, plus loin, verset 7, toutes se réveillaient. Donc, il n'est pas reproché aux vierges avisées de s'être endormies, c'est normal, c'est au milieu de la nuit, mais elles avaient prévu, justement, cette possibilité en prenant la réserve. Ça veut dire qu'elles avaient prévu une réserve d'amour pour accueillir l'époux qui vient. C'est cela qui leur importait, que quoi qu'il arrive, quel que soit le moment où ils viennent, elles soient en mesure de l'accueillir. Et c'est pour ça qu'elles avaient pris des réserves. Et c'est pour ça aussi qu'elles ne veulent pas partager aux autres. On dirait que c'est un réflexe égoïste, mais elles savent très bien que si elles le font, mais finalement, il n'y aura pas assez ni pour les unes ni pour les autres. Si on veut que l'époux soit accueilli dignement dans la salle des noces, eh bien, il faut utiliser l'huile qui a été prévue à cet effet. Au milieu de la nuit, un cri est arrivé. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Vous souvenez, Jésus a averti, si on vous dit, voici le Christ, il est là, il est ici, voici, il est là-bas, n'y croyez pas. Mais cette fois-ci, c'est le vrai voici. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, elles se réveillent toutes. La réaction, le dialogue entre les vierges sages et les vierges folles qu'on a entendu. Et voilà que la porte est fermée. Et plus tard, donc, ces vierges trouvent la porte close. Il est trop tard cette fois-ci. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Cette double appellation dit une insistance. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et vous vous souvenez peut-être qu'au chapitre 7 de Matthieu, pour conclure son serment sur la montagne, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, mais voilà, je ne vous sais pas, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Puis la parabole des talents. Tout comme un homme partant en voyage appela ses serviteurs, le livra ce qui lui appartenait, donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1 seul, à chacun selon sa propre puissance, littéralement. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents œuvra, en gagna 5 autres, de même celui qui en avait reçu 2. Celui qui en avait reçu 1 seul, s'éloignant, creusa la terre et cacha l'argent de son Seigneur. Or, après un long temps, comme il faut tarder, il faudra du temps, mon Seigneur prend son temps, après un long temps, vient le Seigneur de ses serviteurs, là, il règle ses comptes avec lui. Venant auprès de lui, celui qui avait reçu 5 talents, les porte aux autres, 5 autres talents, en disant, Seigneur, tu m'as livré 5 talents, voilà, j'ai gagné 5 autres. Le Seigneur lui déclara, bien, serviteur bon et fidèle. L'adjectif déjà rencontré, fidèle. Tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. De même pour celui qui a reçu les 2 talents. Puis, le passage au verset 24, venant auprès de lui, celui qui avait reçu 1 seul talent, dit, Seigneur, connu, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, assemblant où tu n'as pas éparpillé, alors ayant craint, je me suis éloigné, j'ai caché ton talent dans la terre. Voilà, tu as ce qui est tien. Son Seigneur lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'assemble d'où je n'ai pas éparpillé, il te fallait donc confier mon argent au banquier. Non, moi, j'aurais récupéré ce qui est mien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent, donnez-le à celui qui a 10 talents. Car à tout qui a, il sera donné et il surabondera. À tout qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. ce serviteur inutile, jetez-le dehors, vers la ténèbre extérieure, là sera le pleur et le grincement de dents. Nous connaissons bien le temps que nous avons réentendu hier dimanche. Je reprends le début. L'homme part en voyage. C'est aussi l'expression utilisée pour, au début de la parabole des vignerons homicides. L'homme de la vigne part en voyage et confie sa vigne et puis il va en demander le fruit plus tard. Cet homme qui part en voyage, dans le contexte, on comprend que Jésus figure par là son départ de ce monde. Et que, en son absence, avant son retour, le jour du Seigneur, sa parousie, ben, il s'agira de se montrer responsable. Responsable de quoi ? Des talents. Mais les talents, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui lui appartient, ce sont les biens du maître. Alors, en français, on est trompé parce que le mot talent désigne nos aptitudes, nos dons. Il est doué, il a du talent. Mais ce n'est pas ça qu'il dit ici. Ce sont les biens du maître. Et nos aptitudes, elles sont désignées par un autre mot. À l'autre deux, un seul, à chacun selon sa capacité, sa puissance. C'est ça qui désigne nos aptitudes. L'un a des dons, tel qu'il va pouvoir porter une responsabilité de l'ordre de 2, l'autre de l'ordre de 5, de l'ordre de 1, peu importe. L'important, c'est selon la capacité de faire fructifier les biens du maître. C'est-à-dire, nous sommes responsables de la croissance du royaume. Donc, ça nous dit autre chose que simplement valoriser vos talents, qui visent toujours peut-être à nous mettre un peu en avant. Non, ce qu'il s'agit de valoriser, c'est le bien du royaume, la croissance du royaume qui nous est confiée. Et voilà, aussitôt, hein, sans tarder, celui qui a reçu 5 et de même celui qui a reçu 2 œuvre. Se mit à l'ouvrage. C'était le mot utilisé « Mon enfant va œuvrer aujourd'hui dans ma vigne ». C'est le mot de même racine que les ouvriers de la première jusqu'à la dernière heure. Œuvrer, œuvrer dit le labeur au service du royaume. Avec ses talents, celui-là œuvre et en gagne 5 autres, de même celui qui en a reçu 2. Alors au moment de la remise des comptes, nous entendons l'éloge du Seigneur, serviteur bon et fidèle, très bien, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Il y a une loi de croissance. Il nous est dit à la fin, celui qui a peu, parce qu'il a eu peur et a enfoui, eh bien, même ce qu'il a va lui être enlevé. Il y a une loi de croissance et de décroissance, si l'on peut dire. L'expression « celui qui a, il lui sera encore donné », puis son corollaire, est déjà apparu à propos de l'intelligence des paraboles. Celui qui a commencé à s'ouvrir à ouvrir son cœur au langage parabolique, bien, il va de plus en plus comprendre, il sera dans l'abondance. Celui qui ferme son cœur, eh bien voilà, même le peu qu'il croyait avoir va lui être un. Mais pour le moment, serviteur, tu as été fidèle, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Le terme de joie est utilisé pour les mages, la grande joie dont ils sont saisis à la vue de l'enfant, pour le trésor caché, celui qui le découvre dans sa joie va vendre tout ce qu'il a pour l'acquérir. Et voilà, entre dans la joie de ton Seigneur, c'est-à-dire participer à la joie même de ton Seigneur. Ce n'est pas simplement ta joie, ta fierté d'avoir produit du fruit, mais sache que ça fait la joie de ton Seigneur, puisque c'est son bien, son désir de voir grandir le royaume auquel tu as contribué. Tandis que celui qui n'a reçu qu'un, c'est donner une certaine image du maître. Il est possible que le maître, en fait, il est parti en voyage, et donc ce n'est pas lui, pour reprendre l'image, qui a semé, mais c'est quand même lui qui a confié son bien et donc qui est en droit de recueillir le fruit de la moisson. Et par rapport à cette perspective, le serviteur est entré dans la crainte plutôt que de se dire « je vais m'y mettre et faire fructifier le peu que j'ai reçu ». Au contraire, il l'a enfoui en creusant un trou dans la terre où le cœur ouvert s'est découvrir par contre un trésor. Mais lui, il enfouit son talent dans la terre. Et puis, ce que j'évoquais, enlève-lui son talent, donnez-le à celui qui a 10, celui qui a, il lui sera donné, etc. Donc, cette perspective d'un chemin dynamique de croissance. Quand on a commencé à servir, eh bien, on va pouvoir nous confier et faire fructifier de plus en plus. Alors, par rapport à cette version de la parabole des talents, je vais terminer par là, il y a la version pour que vous mesuriez comment une même parabole peut recevoir des accents différents selon le contexte où elle intervient. On va prendre la version de Luc, qui parle non pas de talent, hein, c'est une mesure de monnaie, mais d'une autre manière de signifier une mesure de monnaie, que sont les mines. Et c'est ce que vous avez sur la page, vous avez le texte sur la page 29, Luc 19. Je prends le texte, cette fois-ci dans Saint-Luc. On ne va pas tout lire, mais je vais pointer, je dirais, les versets qui signalent la spécificité de Luc, et notamment ceux du début. Le contexte, en Luc, Jésus vient de rencontrer Zachée à Jéricho. Et il a conclu, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui se trouvaient perdus. Or, comme ils entendaient ceci, et donc allusion est faite à ce qui précède. Pourquoi le Fils de l'homme est-il venu? Pour chercher et trouver ce qui était perdu. Il était à Jéricho. Jéricho, c'est sur son chemin vers Jérusalem. Alors maintenant, comme ils entendaient ceci, ayant ajouté, ils disent une parabole en raison de ce qu'il était proche de Jérusalem. Et qu'eux pensaient que le royaume de Dieu allait venir subitement et se manifester. On va voir la même problématique. Au début des actes, encore, les disciples espèrent encore une venue du royaume de Dieu sous une forme glorieuse. Ils n'ont pas encore compris qu'il est venu, mais à travers le mystère pascal, ici, donc, allusion est faite à leur attente de la venue du royaume sous une forme qui doit être corrigé, rectifié par Jésus. Il dit, un certain homme de haute naissance fit route vers un pays lointain pour prendre pour lui-même la royauté et retourner. Allusion est faite ici à la manière dont Hérode recevait la royauté en étant cautionné par les autorités romaines. Donc là, celui qui sont pressants pour la royauté, doit recevoir l'investiture royale en s'en allant d'abord. Mais Jésus fait comprendre que il part en route et à travers son mystère pascal et puis sa retour à la fin des temps, il va être pleinement investi, manifester son investissement comme roi. Donc ce thème de la royauté est important. Le Christ va être raillé en croix pour sa prétention à être le roi, roi des Juifs. Un homme de haute naissance, il part pour se faire investir de la royauté. Puis il confie ses affaires et en leur disant, je viens, il donne 10 mines à 10 serviteurs, une à chacun. Là, pour le coup, chacun reçoit la même chose, mais la manière de réagir est bien différente. Mais alors, verset 14, or ses concitoyens le haïssaient. Il y a quand même des gens qui ne voulaient pas trop la royauté d'Hérode. Mais ici, ça va plus loin. C'est de Jésus. On ne veut pas la royauté. C'est comme si il le haïssait. Et ils envoyèrent une ambassade en disant, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Mais voilà, il revient. Il a bien reçu la royauté. Et il convoque ses serviteurs. Et puis, nous voyons la scène du dialogue avec les serviteurs respectifs. Et on en engage un peu différent de Matthieu, mais là, c'est largement parallèle à Matthieu. La manière dont, à partir de la fidélité en peu de choses, on reçoit autorité sur bien plus. Fidèle à matière minime, soit maintenant, reçoit autorité sur 10 villes, au verset 17. Celui qui a fait fructifier 5 fois, reçoit autorité sur 5 villes. Et puis, la représentation négative que s'est donnée de son maître, celui qui enfouit qui ne fait pas fructifier ce qu'il a reçu, Je te juge sur tes propres paroles. Verset 22. Hors de ta bouche, je te juge, serviteur méchant. Tu savais que je suis un homme sévère, etc. Mais voilà, en raison de quoi n'as-tu pas placé mon argent à la banque, comme chez Matthieu. Je l'aurais retiré avec un intérêt. À ceux qui se tenaient présents, il dit, enlevez la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Pour une variante du texte grec, dit, la réaction, on réagit, mais il en a déjà 10, non? Et la conclusion que Jésus énonce, je vous le dis, à tout qui a, il sera donné, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Un peu dans le sens où vous les commentez, s'il y a une fermeture première, mais on ne peut rien. Mes ennemis qui ne voulurent pas que je règne sur eux, menez-les ici et égorgez-les devant moi. Ça paraît une image terrible. Mais il y a sans doute une allusion historique au fait que Hérode, ce n'était pas un enfant de cœur. Et que Hérode avait de telles pratiques vis-à-vis de ses contradicteurs. Mais donc l'image de soi est terrible. Et Luc ajoute, ayant dit ceci, il faisait route, montant vers Jérusalem. Et on sait très bien ce que ça signifie dans la voix de Luc. La montée vers Jérusalem, c'est la montée obéissante de Jésus, selon ce désir de son Père, jusqu'à aller s'offrir à Jérusalem. Donc, les questions d'hommes qui seront égorgés, mais lui, après avoir dit cela, sous forme parabolique, dans la réalité du récit évangélique, il s'apprête à donner sa vie, et librement, à Jérusalem. Voilà, pour situer dans le contexte, cette variante de Luc, la parabole des mines, comparée à la parabole matthéenne des talents. Donc, je résume et puis je vais vous montrer trois images. Donc, nous avons ressaisi dans le fil où elles interviennent chez Matthieu, d'une montée qui se pressent comme dramatique de Jésus vers sa mort et sa résurrection, trois paraboles qui insistent sur la vigilance à laquelle Jésus invite ses disciples à avoir pour les préparer au temps où il ne sera plus parmi eux et pour ne pas se laisser surprendre lors de son retour. Ils doivent pendant ce temps être comme de bons serviteurs qui font la volonté de leur maître et de mauvais, comme des vierges vigilantes avec leurs lampes remplies d'huile pour dire leur amour qui attend vraiment le retour de l'époux, et comme des hommes qui, à partir des biens du maître, les talents qu'ils ont reçus, selon leurs capacités, alors les font fructifier parce qu'ils ont souci de voir grandir le royaume qui tient à cœur à celui que Luc nous présente précisément comme un roi qui confie ses biens dans l'attente de son retour après son investiture royale. Alors, trois images. D'abord, celle-ci. Dans laquelle il y a beaucoup de choses, je vais vous la remontrer. Dans laquelle il y a beaucoup de choses, parce que c'est un dessin des paraboles, la série des paraboles. Je soupçonne Madame Lurquin, sur ce dessin-là, d'avoir mis sa plume elle-même, parce que c'est particulièrement réussi. Elle a présenté le serviteur fidèle, un peu avec une tête de Saint Ignace, en l'occurrence, et elle a mis quelques éléments. Il y a le serviteur mauvais, qui bat ses condisciples, ici, en dessous. Il y a le serviteur fidèle, qui donne aux serviteurs de la maison ce qui leur revient en leur temps. Et puis, il y a le retour du maître, qu'ils reviennent au lever du soleil, au chant du coq, en pleine nuit, si je les prends dans cet ordre-là, eh bien, s'ils les trouvent fidèles, eh bien, il passera, les fera mettre à table, les servira, et même le geste un peu du lavant des pieds est ici inclus. Alors les pleurs et les grincements de dents, ils sont là, cette expression récurrente. Et l'allusion au voleur qui perce le mur de la maison, elle est là. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs éléments qui sont repris dans cet assez beau tableau d'ensemble du serviteur heureux de sa béatitude de rencontrer son maître à son retour. Alors, une image sur la deuxième, les vierges insensées et les vierges belles, vous voyez en bas, on l'a déjà vu, elles s'assoupissent, mais voilà que celles qui étaient vigilantes peuvent accueillir le maître, tandis que les autres vont rester là en le priant, Seigneur, Seigneur, mais demeureront à la porte et ne pourront pas participer à la joie des noces de l'époux. Et enfin les talents, où vous voyez, celui qui en a reçu un seul, là dans le coin, là, il fait un petit trou dans la terre et il l'enfonce dans la terre, il la cache dans la terre, tandis que les autres les ont fructifiés et peuvent se réjouir au retour du maître en voyant que s'il en a reçu deux, eh bien il en reçoit deux autres, s'il en a reçu cinq, s'il en a fait fructifier les cinq, il reçoit cinq autres. Voilà, c'est sur cette perspective un peu imagée, puisque les paraboles s'y prêtent, que nous terminons cette leçon. Merci de votre attention et à lundi prochain, normalement.